Alors, j'ai été contente d'apprendre, grâce à votre intervention, Monsieur Vinquin, que la pédagogie universitaire pouvait devenir un axe central des futures recherches de l'ancien INRP. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai déposé un projet dans cette même maison, l'ancien INRP. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à défendre l'idée que c'était un chantier vraiment majeur pour l'éducation et la formation, et notamment pour la recherche en éducation et formation. Et j'ai dû abondamment argumenter pour dire que c'est extrêmement important. Le projet a été quand même accepté par le conseil scientifique, mais ma question, c'est pourquoi ça a pris 20 ans ? Donc c'est d'une certaine manière cette question que je me pose régulièrement qui oriente aujourd'hui mon intervention. Je me suis dit, après trois enquêtes nationales, dont une européenne, après quatre ouvrages à peu près sur le sujet, un certain nombre de chapitres de livres, d'articles, etc., je me suis dit, je n'ai pas envie aujourd'hui de rapporter encore une fois des résultats d'enquête pour la énième édition. Donc j'ai éprouvé le besoin de vous proposer une réflexion, puisque vous m'avez fait l'honneur de me proposer cette conférence d'ouverture. Je me suis dit, je vais peut-être m'appuyer sur cette quinzaine d'années de travail, à la fois dans l'enseignement supérieur, mais aussi dans la recherche, pour exprimer une réflexion, une analyse, qui risque peut-être d'être plus portée par le pessimisme de la lucidité que par l'optimisme de l'engagement. J'essaierai d'organiser les choses de manière canonique, en trois parties. Et j'essaierai, dans ces trois aspects que je vais tenter d'analyser, de voir, au-delà de toutes les avancées institutionnelles et au-delà de tous les modernismes techniques, je voudrais essayer de mettre en valeur les problèmes de fond et des problèmes de fond qui me semblent perdurer. Alors évidemment, ça casse un peu l'ambiance, mais je compte sur les collègues qui vont intervenir après pour rattraper les choses et montrer que malgré tout, ça avance. Ce qui me frappe, c'est que, quels que soient les exploits des collègues qui prennent en charge et mettent en œuvre la relation entre le pédagogique et le numérique dans l'enseignement supérieur, malgré ces exploits, on avance, certes, mais très lentement, et d'une manière qui est totalement disproportionnée entre les budgets et les énergies engagées et les résultats effectifs. Donc, du côté de la recherche, moi je suis du côté de l'analyse des résultats effectifs. Donc j'ai tendance à être un petit peu pessimiste, mais je travaille avec des collègues qui le sont moins et du coup ça compense. Alors, en premier lieu, je tenterai de mettre en valeur le caractère problématique de la réflexion pédagogique dans le supérieur. Pédagogie dans le supérieur, ça ne va vraiment pas de soi, et encore moins en France. Et ça, si on n'en tient pas compte, on ne réussit pas à transformer les choses dans le fond, de façon structurelle. On est toujours dans de l'innovation ponctuelle qui passe. Bon, on a rédigé deux ouvrages sur des innovateurs extrêmement héroïques. Que deviennent leurs innovations ? Dans ce paysage problématique qui ne va pas de soi, qui met en œuvre des tensions entre des cultures de travail très distinctes, voire opposées, et je voudrais illustrer cela, mettre en valeur ces tensions me paraît pouvoir expliquer un certain nombre de conduites d'acteurs et un certain nombre de configurations institutionnelles qui permettent de comprendre pourquoi c'est si lent et pourquoi c'est si dur. Donc, dans ce paysage, les technologies, et là encore, je ne vais pas être gentille, joue un rôle qui me semble confiné aux stéréotypes, tant le même scénario se répète, je dirais ad nauseam, depuis des décennies. Donc ça aussi, j'aimerais bien pouvoir prendre le temps de l'expliquer, pour que nous y réfléchissions ensemble, et pour que nous essayions de voir pourquoi, du côté de nos paradigmes de pensée, et pourquoi, du côté de nos cultures d'action, il y a tant de résistance et finalement tant d'inertie à changer. Pour moi, c'est la raison qui explique qu'une recherche fondée sur les apports des sciences humaines et sociales s'avère non seulement pertinente à l'heure même où on se demande bien à quoi ça sert de produire autant d'intelligence, mais il me semble qu'elle est aujourd'hui indispensable. Indispensable aux côtés de secteurs plus reconnus et mieux financés, Monsieur Coulon, de la recherche-développement et de la recherche-action-formation. Mais peut-être grâce à vous, ça peut évoluer. Il me semble qu'en contribuant à rendre explicites les problèmes de fond, ce type de recherche qui n'est pas bien agréable parce qu'elle dit des choses qui embêtent, qui blessent, qui nous violentent d'une certaine manière, ce type de recherche vise pourtant à fournir les moyens théoriques et conceptuels de l'analyse de ces problèmes. Et par conséquent, peut-être, contribuer à enrayer, je revendique ce mot, à enrayer ce qui m'apparaît, après plusieurs décennies, comme un éternel recommencement. Alors je vais bien sûr essayer d'argumenter, et puis vous me direz si mes arguments tiennent la route. Dans cette première partie de l'exposé, je voudrais mettre en valeur trois constats. C'est pas gentil. Dans la culture académique instituée, en tout cas en France, je me tourne vers Bernadette parce qu'ailleurs je sais que c'est pas tout à fait pareil, le pédagogique n'est pas un domaine considéré comme universitaire. Dans les pratiques, le pédagogique est toujours lié à une perspective dite « innovante ». Terme qui relie le pédagogique, ou qui tend à relier le pédagogique, et là je vais faire plaisir à M. Coulon, au dernier objet technique à la mode, est donc toujours destiné à résoudre des problèmes pour le moins embarrassants. Dénié ou mieux considéré comme ancillaire, le pédagogique associé aux techniques ne peut donc être qu'attaché à une recherche appliquée, débouchant sur des résolutions de problèmes pratiques. Alors, pour illustrer le premier constat, je vous propose de faire un détour par la lecture d'un extrait de texte d'un écrivain célèbre, un peu ancien, un peu désuet, mais qui me semble assez révélateur d'un esprit qui continue à structurer l'enseignement supérieur en France. Je vous le laisse découvrir tranquillement. Merci de sourire. Avant de continuer, je dois dire que je ne cherche pas à remettre en cause le modèle traditionnel. Je cherche juste à le faire émerger au conscient, de telle manière que l'on sache dans quel, dans quel terreau nous travaillons, terreau culturel, épistémique, en termes d'habitudes de travail, etc., etc. Et à partir du moment où on prend conscience de ce terreau, on peut se dire, on a à prendre en charge cet héritage. Il ne s'agit pas de jeter aux orties l'histoire de l'université française. Prenons cet héritage-là et qu'en faisons-nous aujourd'hui dans un monde mondialisé ? Donc c'est l'idée de mon propos. Et si je trouve intéressant, et c'est finalement un peu la culture des sciences humaines et sociales, si je trouve intéressant de faire un détour par ce texte un petit peu ancien, c'est parce qu'il me semble révélateur de cet état d'esprit. L'enseignement universitaire est principalement orientée par le souci de la pertinence des contenus de savoir. Donc oui, la dimension chercheur dans enseignant-chercheur a un sens à l'université. Et ce serait, je trouverais affreux que l'on dénie à des enseignants du supérieur leur identité ou leur dimension de chercheur. Le souci de la pertinence des contenus de savoir est appuyé sur les travaux des humanités et des sciences, au regard d'une visée, celle de la recherche de la vérité, de la connaissance vraie. L'université est un lieu où l'on va tenter d'y voir clair, où l'on va tenter de construire des modèles d'intelligibilité du monde. Ce n'est pas le lieu où on va dire comment transformer le monde, comment... Bon. C'est une dimension qui est importante dans notre identité. Il est donc centré sur les savoirs produits par les universitaires eux-mêmes. Là encore, on a de quoi réfléchir. Si les universitaires produisent des savoirs, est-ce qu'on peut leur demander d'être aussi des spécialistes de sa diffusion? Est-ce qu'on peut leur demander d'être aussi spécialistes des supports de la diffusion? Est-ce qu'on peut leur demander d'être aussi de bons administrateurs et de bons gestionnaires, etc., etc. Donc dans cette multiplicité d'identité, je pense qu'il y en a beaucoup plus que deux. Il reste à savoir, et j'irai lire le roman, pour savoir comment gérer cette multiplicité d'identité. L'universitaire produit donc de la connaissance, et il a pour vocation de la transmettre. Une connaissance supérieure, puisqu'elle est attachée à l'érudition des humanités et à l'empirisme de la science, une transmission qui, elle, est destinée à une élite, celle-là même qui perpétuera l'institution dans le temps. Donc, dans ce terreau-là, nous avons à faire ce travail d'évolution, puisque à la fois dans cette conception d'une connaissance supérieure, il y a aujourd'hui d'autres lieux qui produisent de la connaissance, et dans ce public destinataire, l'université a certes quelques publics d'élite, mais elle est devenue aujourd'hui une université de masse. Donc là, on a de quoi travailler. Dans un tel contexte, l'universitaire n'a pas à se soucier, dans le modèle traditionnel, de la réception de son enseignement. Ce qui compte, ce sont les contenus de savoir et toute autre préoccupation distrait de cet essentiel. Je pense que quand on a conscience de cette dimension, on peut comprendre pourquoi ça résiste. On peut comprendre pourquoi des enseignants-chercheurs ne veulent pas passer leur temps à apprendre les derniers logiciels et à essayer de mettre en ligne leurs enseignements, etc., etc., parce qu'ils ont d'autres choses à faire et d'autres choses qui fondent leur mission à l'université. C'est à travailler, c'est à réfléchir. Dans ce rapport au savoir, la relation entre maître et élève est on ne peut plus dissymétrique. Donc vous voyez, on est loin de l'idée de la formation qu'évoquait notre collègue tout à l'heure. Elle est dissymétrique entre celui qui sait et détient la parole et le sens et celui qui vient respectueusement, laborieusement la recueillir. Je pense qu'il y a là une autre dimension à explorer. Que devient cette identité de l'enseignant-chercheur, cette identité du sachant, du spécialiste, de l'expert dans l'univers numérique? On observe bien combien dans le numérique les hiérarchies sont réaplanies. Alors, ça peut être un bien, mais dans ce rapport au savoir et dans cette capacité d'accompagnement à l'acquisition de savoir de haut niveau, on a peut-être à réfléchir pour réinstaurer l'enseignant-chercheur dans sa position de sachant. Donc, vous voyez, c'est pas... Les choses ne sont pas si simples. tenu de ces représentations encore prégnantes aujourd'hui dans l'institution universitaire, on comprend pourquoi il est possible de considérer très sérieusement, rigoureusement, comme dirait Charles Péguy, que la pédagogie n'a pas sa place à l'université. Alors, même s'il reste aujourd'hui peu d'universitaires prêts à revendiquer ce modèle fondateur, on ne peut nier qu'il structure encore très fortement l'institution. Regardez les espaces architecturaux, les amphithéâtres, la manière dont sont positionnées les salles, etc., etc. Combien y a-t-il de salles équipées, par exemple, pour du travail en petits groupes ? Regardons comment sont organisées les temporalités et leurs décomptes. Cours magistraux, TD, bon, je crois que TP, ça n'existe plus, mais comment comptabilise-t-on le travail de l'enseignant-chercheur, par exemple, entre le présentiel et la distance ? Entre les cours magistraux en amphithéâtre et les séminaires en petits groupes. Comment comptabilise-t-on dans la charge de travail d'un enseignant-chercheur tout le travail d'accompagnement à la formation intellectuelle des troisièmes cycles ? Ça compte pas. Bon. Donc, je pense que là, on a vraiment de quoi travailler. Je pense qu'on aurait de quoi faire une liste, finalement, et enquêter pour savoir comment l'institution universitaire aujourd'hui, dans ses temps, dans ses espaces, dans ses modes d'organisation, dans son langage, dans ses modes de décompte, dans ses modes de valorisation, de reconnaissance, d'évaluation, etc., etc. Hein, finalement, dans sa structure institutionnelle, comment elle oriente dans le sens inverse de celui vers lequel nous voulons aller. Enfin, ici. Ça ne veut pas dire qu'on ait raison, mais bon. C'est l'histoire qui nous pousse dans ce sens. Je pense que ce modèle structure encore très fortement les mentalités, par exemple dans le rapport au savoir, dans la légitimité qu'on accorde à certains types d'enseignement. Un cours magistral sur des références théoriques, etc., etc., continue à être beaucoup plus valorisé, par exemple, que des cours de méthodologie. Qui assure ces cours-là ? Comment sont décomptés ces temps ? Qui s'occupe aujourd'hui de méthodologie du travail universitaire ? Qui s'en occupe ? Quel volume horaire ont des enseignements comme ceux-là dans les curricula ? Quel volume horaire peuvent avoir des enseignements, des suivis de séminaires pour une formation intellectuelle de haut niveau ? Comment apprend-on à des étudiants à problématiser, à conceptualiser, à théoriser ? Est-ce qu'à un moment donné, on leur apprend à faire fond de la théorie pour pouvoir agir ? À quel moment réfléchit-on sur cette articulation entre le théorique, la culture, ce patrimoine culturel en termes de théorie, de concept qu'apporte l'université, et la praxis ? Le monde de l'action, le monde de l'action professionnelle, certes, mais aussi le monde de l'action citoyenne. Je pense que la prise en compte de cette facette de l'institution universitaire permet de mieux comprendre les difficultés, et j'ajouterai entre parenthèses colossales, rencontrées par les collègues lorsqu'il s'agit d'améliorer les réponses apportées aux étudiants en termes de contenu de formation, en termes de soutien à leurs efforts d'apprentissage, en termes d'accompagnement de ces apprentissages. Je pense par exemple à une activité qui pourrait être l'aide au diagnostic des difficultés. Comment un étudiant apprend-il à comprendre quelles sont ses difficultés et comment y remédier ? Le soutien au processus de formation qui, comme je pense tout le monde le sait ici, ne se réduit pas au processus d'acquisition d'informations. Alors même que le numérique tend à laisser croire que quand on multiplie les sources d'informations, on peut apprendre. Hein ? et que finalement, si on apprend quelque chose issu de cette information, on est en train de se former. Or, entre l'information, l'apprentissage et la formation, on est bien là sur trois types de processus qui sont terriblement différents. Donc, on est aujourd'hui en train de développer toujours une société de l'information. On n'a pas encore commencé à développer une société de l'apprentissage. Mais de là à penser qu'on puisse soutenir la formation dans le supérieur ou la formation générale des individus dans notre société, je pense qu'on a encore du travail à faire. Mais je ne veux pas vous démoraliser. Hein. Je pense que le passage par cette citation un petit peu ancienne permet de comprendre les puissantes inerties du système à changer en profondeur, moins selon des logiques seulement techno-économiques, parce que là, ça bouge vite, hein, que selon des logiques d'usage et de besoins liés à la prise en compte des pratiques effectives des étudiants, mais aussi des enseignants. Et là, je ne vais pas développer, sinon je vais avoir l'impression de me répéter, parce que ça fait 15 ans que je travaille sur le sujet, c'est-à-dire que les pratiques, la visée des dispositifs et l'analyse des pratiques effectives montrent des écarts qui sont parfois terriblement importants quand on ne réalise pas l'inverse de ce que l'on voudrait faire. Mais dans le reste des journées, les collègues vont prouver que ce n'est pas vrai. Donc je ne me fais pas trop de soucis. Je passerai plus rapidement le deuxième et le troisième constat, parce que pour moi, ils sont très fortement liés au premier, pour ne pas dire qu'ils en sont la conséquence quasiment directe. Dans ce contexte du travail universitaire, on pourrait rajouter ordinaire, la dimension pédagogique n'apparaît publiquement, parce que de la pédagogie, beaucoup d'enseignants géniaux à l'université en font et en font intelligemment. Mais publiquement, elle ne se donne à voir qu'associée au terme d'innovation. Un petit peu comme si la pédagogie non innovante n'était pas intéressante. Il y a peut-être là aussi un chantier pour nous. Et bien sûr, ce terme d'innovation amène à un secteur qui est celui des technologies. Un petit peu comme si la pédagogie sans innovation et sans technologie n'était pas vraiment très intéressante. La difficulté, le risque, le problème récurrent de cette association entre pédagogie, innovation et TIC, c'est que l'innovation technique a tendance à recouvrir l'innovation pédagogique. Et donc, on peut finir par croire que l'innovation technique justifie et, d'une certaine manière, amène une innovation pédagogique. Là encore, quand on analyse les pratiques, on se rend compte, mais ça, je pense qu'ici, vous le savez tous, que parfois, vous voyez, j'arrive à être optimiste de temps en temps, parfois, certaines pratiques pédagogiques liées au TIC sont certes innovantes sur le plan technique, mais absolument pas sur le plan pédagogique. Bon, après, reste à se demander ce que c'est que cette innovation pédagogique et est-ce qu'on a besoin de toujours faire du nouveau pour faire bien, hein ? Peut-être que des choses qui étaient plus anciennes étaient absolument formidables. Donc peut-être qu'aujourd'hui, l'innovation, ça pourrait consister à réétudier des pratiques anciennes et puis à comprendre en quoi elles apportent quelque chose à l'apprentissage et à la formation pour les adapter aux réalités contemporaines. Ce que je remarque aussi, c'est que cette association pédagogie-innovation-technologie est rarement, de façon publique, associée à des publics d'élite. Là, on a un chantier. L'association pédagogie-innovation-technologie est souvent associée au traitement de la massification. Un petit peu comme si la massification, c'était vraiment un super gros problème et qu'il y a des tas de difficultés pratiques à lever, à résoudre. Et finalement, grâce à la pédagogie innovante avec les TIC, on va savoir faire de la pédagogie de masse. Rien n'est moins certain. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que cette association entre pédagogie, innovation, TIC serve à compenser un déficit chronique de postes. Parce qu'on sait bien que la technologie sans l'accompagnement humain, pour les pratiques sociales, notamment l'éducation et la formation, ça ne marche pas bien. Parce que, comme vous l'avez dit, les étudiants qui apprennent le mieux avec le e-learning, ce sont des étudiants qui sont déjà performants ailleurs. Donc si la pédagogie numérique avec les TIC enrichit les plus riches, et si on veut s'intéresser à un public qui ne fait pas partie des plus riches, alors il y a à mettre en place de l'accompagnement humain, sinon ça ne marche pas. Et du coup, il ne faudrait pas que cette association vienne couvrir, donc là je me tourne vers M. Coulon, qui sera notre garant que ça ne se passera pas au ministère, cette association puisse compenser, par exemple, des déficits chroniques d'heures en présentiel. Parce que la distance ne remplace pas le présentiel. Donc là, on a un chantier aussi de réflexion et de travail rigoureux, comme dirait Peggy, pour savoir comment peuvent mieux s'articuler le présentiel et la distance. Pour avancer sur le troisième constat, qui pour moi, bien sûr, est en lien avec, très fortement avec les deux premiers, je dirais qu'en France, parce que ça n'est pas vrai dans les pays anglo-saxons et ça n'est pas vrai dans la francophonie européenne, mais en France, il n'y a pas eu énormément de travaux méthodiques, pour le dire modestement, scientifiques, pour le dire autrement, autour de la pédagogie dans l'enseignement supérieur avant les années 90. Moi, quand j'ai présenté mon projet de recherche, c'était les années 90 et j'ai eu du mal à convaincre. Dans ces années-là, à ma connaissance, c'est le premier ouvrage qui porte sur les méthodes pédagogiques dans le supérieur, qui est celui, l'ouvrage d'Annie Biraud. Elle porte explicitement ce constat. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'enquête méthodique, de travaux scientifiques, etc., ne veut pas dire qu'il n'y ait rien eu, puisque à peu près depuis les années 60, précisément ceux que nous appelons les innovateurs, tous ces pédagogues investis, engagés dans le supérieur, ont beaucoup produit. Mais ils ont produit dans des périodiques d'associations ou dans des rapports, ce qu'on appellera la littérature grise, des réseaux. Et là, on a tout un matériau qui, pour l'instant, est assez inexploité, qui pourrait donner lieu à un véritable chantier, alors je ne dirais pas d'exhumation, mais au moins pour que cette pédagogie universitaire numérique vienne s'enraciner dans un terreau de pédagogie universitaire non ou peu numérique, ou en tout cas s'appuyant sur d'autres technologies qui a existé auparavant. Alors, vous me direz, ce sont des constats qui ne sont pas très optimistes. Et moi, la question que je me pose, c'est comment on peut habiliter en France, au sens propre du terme, comment on peut habiliter en France, en tant que domaine universitaire au sens plein, ce domaine de la pédagogie universitaire, on va rajouter numérique, domaine qui ne devrait pas seulement être un domaine d'action, mais aussi un domaine de recherche, non seulement un domaine de recherche en recherche-développement ou en recherche-action, mais aussi, j'oserais le terme, un modèle de recherche fondamentale en sciences humaines et sociales. Je crois qu'il y a presque du militantisme là, à dire des choses comme ça aujourd'hui. Ce domaine de recherche fondamentale en sciences humaines et sociales portant sur ce secteur de l'éducation, de la formation et de la pédagogie dans le supérieur, me semble-t-il, devrait prendre appui, sans les recommencer, les débats qui ont eu lieu déjà depuis une quarantaine d'années en sciences de l'éducation. Pourquoi refaire dans les SUP, pourquoi reconduire dans les SUP des débats qui ont fait couler beaucoup d'encre pendant 20, 30 ou 40 ans dans un autre domaine? Donc, appréhendons ce qui a été fait en sciences de l'éducation pendant une quarantaine d'années, posons-le, et puis voyons comment on peut avancer sur ces bases-là. Parmi les débats, pour vous donner un exemple, on a beaucoup travaillé autour de la pédagogie. Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est un art? Est-ce que c'est une ingénierie? Quel est le lien entre pédagogie, science et philosophie? Autant dire entre l'efficace, le vrai et le juste. Ça vous rappellera des souvenirs. Les articulations, mais aussi les conflits entre pédagogie et didactique. Je pense qu'on a là de quoi travailler. Et peut-être un chantier qui, personnellement, me tient à cœur, c'est la place d'une épistémologie et d'une théorie de la pratique dans un domaine qui tente de produire aussi d'autres formes de savoir. Donc, est-ce qu'une épistémologie et une théorie de la pratique, c'est seulement de la pratique ou un ensemble de recettes, etc. Moi, je dis non. C'est de la théorie, ce sont des concepts. Est-ce que ces théories et ces concepts sont applicables? Je dirais non, parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. En revanche, ils doivent pouvoir permettre de comprendre la complexité des situations pour que les acteurs qui, eux, sont les experts de cette action, les experts de cette activité, puissent œuvrer, puissent agir en conséquence et en connaissance de cause. De manière à ce que ce domaine puisse émerger comme un domaine vraiment universitaire, il y a sans doute en France à être plus ouvert sur les recherches qui sont conduites en Amérique du Nord, anglophone et francophone, et dans la francophonie européenne, de telle manière qu'on puisse s'appuyer sur des travaux qui, eux, existent depuis, à peu près comme en sciences de l'éducation en France, une quarantaine d'années. Alors, pour passer à mon deuxième point, et je vais essayer d'être plus brève pour pouvoir laisser la parole ensuite à Isabelle sans trop de mal. Dans ce paysage institutionnel que j'ai essayé de dessiner très rapidement, le rapport aux objets techniques m'apparaît tout aussi problématique. Et il peut constituer aussi bien une immense supercherie qu'une formidable opportunité. La technique manque de noblesse. Le rapport à la technique manque de noblesse au regard de la culture traditionnelle. Quand elle renforce le pédagogique qui, lui, est dénié dans le modèle traditionnel, il y a une sorte de compensation vers l'instrumentalisation de ce couple technopédagogique. Donc le travail que je tente de faire en recherche, c'est d'une certaine manière de redonner ces lettres de noblesse à ce couple-là. Et je pense que là, le secteur, un domaine universitaire de la pédagogie dans le supérieur utilisant le numérique, peut aller aussi dans ce sens. Rapidement, parce que c'est une chanson que vous connaissez déjà, je pense, mais elle ne cesse de me frapper. Quand on observe les processus d'intégration des objets techniques en éducation et en formation, et le supérieur ne fait pas exception, on a le sentiment d'une répétition régulière et incessante. Rapidement. Un nouvel objet apparaît dans le paysage social. Son introduction dans l'espace de formation tend à mettre en valeur la capacité d'adaptation et de modernisation de l'institution. Par conséquent, le discours du politique va dans le sens de cette modernisation, d'autant plus aisément que des accords sont passés avec le secteur industriel. Ça doit vous rappeler des souvenirs. Les expériences pédagogiques conduites par nos innovateurs, se succèdent durant quelques années. Elles sont impulsées, je ne veux pas vous décourager, hein. Elles sont impulsées par des mesures incitatives et des financements publics au niveau régional, national, européen. Des études et des enquêtes sont conduites et financées par les mêmes organismes publics. Et puis, au bout d'une certaine durée, et vous remarquerez que cette durée est de plus en plus courte, un autre objet apparaît, reléguant le précédent avant toute généralisation de nouvelles pratiques. Et ça, c'est un problème quand même. Ça fait 40, 50 ou 60 ans que ça dure. Hein ? Avant tout changement structurel de l'institution. C'est-à-dire, si aujourd'hui la citation de Peggy ne nous semble pas, alors bien sûr on ne la revendiquerait pas, mais elle n'est pas étrangère à notre institution. Ça veut bien dire que structurellement, l'institution, depuis 100 ans, n'a pas beaucoup bougé. Et je dirais que l'objet nouveau vient remplacer le précédent avant toute évaluation sérieuse des acquis et des pertes liées à ces nouvelles pratiques. Je dis évaluation sérieuse parce qu'il ne s'agit pas juste de faire des décomptes d'accès, des décomptes de machines, des décomptes, etc. Il s'agit aussi de savoir ce qu'on fait avec ces machines-là. Est-ce qu'on change nos modes de travail? Est-ce qu'on change nos modes de pensée? Est-ce qu'on change nos modes d'écriture, de communication les uns avec les autres, etc. Et est-ce que c'est pour du mieux ou pour du moins bien? Alors, évidemment, les innovateurs ont tendance à témoigner sur le mieux, parce que sinon, pourquoi ils se décarcasseraient? Mais je trouverais important que, dans la recherche en sciences humaines et sociales, on puisse s'intéresser aussi à ce que l'on perd. Pourquoi les enseignants et les étudiants résistent-ils autant? Alors, ce n'est pas une résistance volontaire et intentionnelle, mais pourquoi y a-t-il un mouvement d'inertie aussi puissant en éducation et en formation pour garder du présentiel? Pourquoi a-t-on besoin de la relation à l'autre? Pourquoi a-t-on besoin, dans notre parcours de formation, d'un maître? Pourquoi, à un moment donné, a-t-on besoin de se confronter à autrui pour des échanges intellectuels? À quoi ça peut bien servir dans la formation des individus? Je pense que s'il y a cette résistance, c'est bien que là, le numérique n'apporte pas ce qu'il faut. Donc, l'idée de promouvoir une pédagogie du numérique, intégrant les technologies contemporaines, etc., oui, mais à condition de ne pas perdre des choses bonnes et positives qu'on avait avant le numérique. Et là, pour ne pas être sur des perspectives strictement idéologiques ou culturelles, je pense qu'il y a des enquêtes sérieuses à mener sur ces sujets-là. Alors, pour moi, la supercherie consisterait à accepter de fabriquer des vitrines provisoires destinées à la démonstration et à la visite, tout en sachant que rien ne change vraiment dans les réalités de l'activité d'éducation et de formation et dans les formes et les contenus de l'enseignement et de l'apprentissage. Pour le dire trivialement, la supercherie consisterait à changer l'emballage tout en proposant le même produit. La supercherie, pour moi, consiste également à savoir que le dispositif technique présuppose des compétences que les usagers n'ont pas, et continuer à développer des dispositifs de ce type tout de même. La supercherie consiste à savoir qu'un dispositif technique a besoin d'accompagnement humain, tout en continuant à faire comme s'il allait s'autosuffire, parce que d'une certaine manière, il alimente une illusion, peut-être l'illusion des financeurs, d'une économie de moyens possibles. Alors même qu'on le sait, le système technique absorbe une grande partie des budgets parce qu'il a besoin de s'actualiser, de se renouveler de plus en plus vite. Donc là, on a un problème économique sur les bras. De mon point de vue, la grande supercherie consisterait à laisser croire que les dispositifs techniques vont permettre à l'enseignant et à l'étudiant d'accroître sa liberté. Vous savez, apprendre où on veut, quand on veut, flexibilité, souplesse, etc., etc., etc. Le « quand on veut », quand vous avez des étudiants asiatiques qui vous postent des mails à minuit, 1h du matin, moi, j'aurais tendance à penser que peut-être ces technologies accroissent plutôt les contraintes. Donc, il y a sans doute là un travail à réaliser, parce que, à ma connaissance, l'accroissement du travail des enseignants dans ce type de dispositif est incalculé à ce jour. Le travail réel, le travail effectif. Donc quand on propose 6 heures TD pour développer un enseignement à distance de méthodologie en ligne, je me dis l'administration, le système institutionnel, l'université ne veut pas que ça change. C'est pas raisonnable, d'accord ? Alors qu'ensuite on me dise, mais on ne peut pas, imaginons qu'on décompte la totalité des heures de travail nécessaires. Ok, on ne peut pas couvrir la totalité de ces heures. Bon. Disons-le, combien d'heures de travail effectif ? Et ensuite, combien d'heures rémunère-t-on ? Et finalement, combien d'heures reconnaît-on symboliquement ? Je pense que dans la fonction publique, nombre de collègues acceptent la reconnaissance symbolique. Mais au moins qu'il y en ait une. D'accord ? Parce que travailler en permanence et que tout passe dans un trou noir pour qu'ensuite on vous dise vous êtes remplaçable par n'importe quel ingénieur d'études, il y a un problème. Alors pour ne pas être que pessimiste, je dirais que l'opportunité toute particulière qu'offre la dimension technique et dont l'institution pour l'instant ne réussit pas à se saisir, alors que c'est une opportunité historique, je reprendrai votre terme, monsieur Coulon, cette opportunité, c'est de pouvoir repenser l'organisation de l'institution universitaire, mais peut-être toutes les organisations sociales aujourd'hui, non pas en fonction des dernières techniques du marché, mais en fonction des spécificités de l'activité humaine dans des secteurs sociaux comme l'éducation et la formation. Et si on entre dans le problème par la spécificité de l'activité humaine, alors on redonne à la technique sa juste place. Et là, je pense que les anthropologues ont beaucoup à dire sur le sujet. Il me semble difficile, voire dangereux, d'aborder le basculement civilisationnel. Il faut prononcer ce mot, ça fait un peu peur. Mais je crois qu'on en est là aujourd'hui. On est dans un basculement civilisationnel lié au numérique, dans un contexte de mondialisation. Il est, me semble-t-il, dangereux d'aborder un contexte comme celui-là dans le supérieur avec des schémas de pensée et d'action qui sont pris dans ce que je qualifierais d'un enrayement de l'institution. Pourtant, on a de quoi s'illustrer, on a de quoi s'instruire. Depuis l'Antiquité, depuis plusieurs siècles, depuis près de 100 ans, depuis quelques dizaines d'années, l'intelligence humaine produit de la connaissance sur l'éducation, la formation, l'apprentissage, etc. Je trouverais dommage que le secteur des technologies, de la pédagogie universitaire, soit aussi ahistorique qu'amnésique, et qu'il soit suspendu dans une sorte de modernité en apesanteur dans l'histoire humaine. Donc je pense que notre premier travail, et ça pourrait être un chantier pour l'ancien et nouveau INRP, c'est de pouvoir... Comment je pourrais dire, rendre compte de cette richesse-là, la donner à voir, la faire partager, la faire connaître. Combien d'universitaires aujourd'hui sont en train de développer des dispositifs pédagogiques pour le supérieur avec les TIC, sans avoir peut-être, je dirais pas jamais lu ce terreau culturel qui est là, quasiment sous nos yeux, mis à notre disposition. Mais en tout cas, ils n'ont pas le temps de le faire, pris par le développement des outils. Alors, que va donner cette pédagogie universitaire si on ne s'arrête pas de temps en temps pour s'instruire, pour s'imbiber de ce terreau intellectuel et se demander... Quel rôle nous, aujourd'hui, nous jouons dans cette histoire humaine ? Parce que dans l'enseignement supérieur, ce sont les futurs intellectuels, politiques, acteurs professionnels, chercheurs, etc., que nous sommes en train de former. Donc, quelle société sommes-nous en train de former? Si nous-mêmes, nous n'avons pas en nous, nous ne sommes pas porteurs de ce terreau intellectuel et culturel, comment pouvons-nous le transmettre? Alors, bien que je m'y sois risquée, je n'ai pas la prétention et je ne me sens pas la légitimité aujourd'hui pour proposer un programme de recherche en pédagogie universitaire numérique à l'ancien nouveau INRP. Du coup, je passerai par le filtre de mon expérience personnelle, comme ça je prendrai moins de risques, hein, et je dirai que au fur et à mesure que j'ai élaboré ces constats qui sont quand même un peu atterrants, il faut bien le dire, comme je n'étais pas candidate à une conversion thématique, je me suis dit il faut quand même que je me donne quelques chantiers qui pour moi ont du sens et qui me permettent d'aller cas un cas vers une retraite qui risque d'être un peu lointaine. Alors je me suis donné un bon programme et je me suis dit voilà, le premier chantier pour moi, mais je serais ravie de le partager, hein, le premier chantier pour moi, c'est donner, redonner une épaisseur socio-historique à l'analyse de cette activité particulière qu'est la pédagogie couplée à ses techniques, notamment dans le supérieur. Le deuxième chantier, et j'ai commencé, je rends public hein, les travaux, donc si certains veulent travailler avec moi sur ces questions, je serai ravie. Pour moi, le deuxième chantier, c'est élaborer, en sciences de l'éducation, puisque j'y suis, un cadre théorique transdisciplinaire, enraciné dans les sciences humaines et sociales. Pourquoi ? Quand on regarde qui produit de la théorie et du concept sur l'activité humaine, sur les relations entre l'activité et les techniques, c'est l'anthropologie, c'est la philosophie, c'est la sociologie, sciences de gestion, infocom, timidement, un petit peu, cas un cas, les sciences de l'éducation. Donc je pense qu'on a là, aujourd'hui, peut-être à faire fond de ces apports et ancrer ces propositions transdisciplinaires dans les apports des anthropologues, des historiens des techniques, des sociologues, pour pouvoir imaginer, penser une épistémologie et une théorie de la pratique qui ne soit pas la somme d'un ensemble de recettes. Et là, je pense qu'on redonne ces lettres de noblesse à ce couple technopédagogique. Le troisième chantier, du coup, c'est contribuer à développer une approche sociotechnique qui a abondamment été travaillée en information et communication depuis à peu près les années 90-92. Et vous allez me dire, 20 ans après, je pense que c'est encore extrêmement productif intellectuellement, parce que quand on s'oblige à travailler selon une approche socio-technique, on est obligé de coupler l'artefact et l'activité. Et quand on travaille dans cette perspective-là, on ne peut pas découpler artefact, activité et environnement ou environnement et contexte. Du coup, ça redonne une épaisseur, une force à l'analyse du contexte sociopolitique et institutionnel. Et là, on se rend compte que le contexte sociopolitique et institutionnel configure en partie les dispositifs de formation, notamment, et je dirais presque surtout, dans l'enseignement supérieur. Le cinquième chantier, c'est donc produire des concepts et des modélisations en vue d'une éventuelle théorie, soyons ambitieux ou ambitieuses, qui, tout en éclairant la compréhension des situations et des processus, soit susceptible d'accompagner un changement de pratique et de culture d'action. Alors, quand je dis éclairer, accompagner, c'est éclairer pour dire un ensemble conceptuel permet de comprendre le monde autrement que quand on ne l'avait pas. Vous avez évoqué le concept d'habitus tout à l'heure, de capital et habitus. Bon. Ces concepts-là ont totalement modifié notre façon de voir les relations sociales. Elles ont totalement modifié nos façons de voir ce que nous appelions avant les classes sociales. Et ça permet à des chercheurs comme aujourd'hui, par exemple, de travailler sur un concept comme la névrose de classe. Je pense à De Gaulle-Jacques. Et quand on a des concepts comme ça dans sa besace, on devient intelligent. Et je pense que c'est ça le but de l'enseignement supérieur. C'est de rendre intelligent, nous déjà, pour commencer, en s'instruisant, les étudiants, mais aussi les citoyens lambda qui peuvent se connecter sur nos espaces numériques et peut-être assister à des conférences, etc. Ça, c'était pour éclairer, accompagner. C'est parce que on peut partir du principe que des concepts, des modélisations ne sont pas faits pour être appliqués. Quand on dit à des chercheurs, mais à quoi ça sert ce que vous produisez? Qu'est-ce qu'on peut en faire sur le terrain de nos pratiques? Ça ne résout pas nos problèmes quotidiens? Bien sûr. Donc, ça permet déjà peut-être dans un premier temps de les comprendre. Mais si ensuite on a cette préoccupation d'utilité professionnelle, sociale, on peut peut-être travailler sur des formes de modélisation qui peuvent constituer pour les acteurs des grilles de lecture, des grilles de réflexion, des indicateurs, des observables, qui ensuite leur permettent, en les transformant bien sûr, de travailler, eux, sur leurs activités propres. Alors, c'est un truisme aujourd'hui de dire que l'enseignement supérieur contemporain est mis en demeure de relever de nombreux défis. Si je reste dans le registre pédagogique, deux défis m'apparaissent majeurs. Le premier, c'est celui d'accompagner et de soutenir des publics dans leur formation et dans leur diversité. Quand je dis dans leur formation, ce n'est pas au sens de formation initiale, formation continue. C'est dans le sens presque anthropologique de la recherche que donne la recherche nord-américaine en andragogie. C'est formation au sens de se donner une forme. C'est accompagner les individus, certes, à s'instruire, à apprendre, mais à développer des compétences de compréhension, de communication, d'échange, etc., mais aussi des compétences de partage, des savoir-vivre ensemble. C'est aussi ça, la formation. Et là, elle rejoint l'éducation. Dans quelle mesure on le fait à l'université? Quels moyens on se donne pour cet accompagnement-là, en sachant que nombre de nos publics qui arrivent dans les premiers cycles ont encore besoin de cet accompagnement éducatif? Et quand je dis diversité, ça n'est pas seulement la diversité de nos cités. C'est la diversité d'un enseignement supérieur ouvert à l'international. Quand des collègues ou des étudiants nous sollicitent pour développer des cours dans leur pays ou pour suivre des doctorats, etc., quelle place accorde-t-on à la réflexion sur l'interculturalité? Est-ce qu'on est dans une situation de transfert de technologie, ou est-ce qu'on se donne les moyens de réfléchir à quelle est notre forme de rapport au savoir, quels sont nos habitus en termes pédagogiques, et puis quels sont les rapports au savoir privilégiés dans un pays donné, quels sont les habitus pédagogiques privilégiés dans ce pays, etc. etc. Est-ce qu'on le réfléchit, ça? Je pense que là, il y a un enjeu extrêmement important. Sinon, les étrangers ne s'adresseront pas à nous. Ils iront voir ailleurs. C'est pas un problème. Alors, accompagner les étudiants, les enseignants, mais plus largement tous les personnels, dans ce qui, de mon point de vue, est plus qu'une simple modernisation de l'institution. On n'en est plus là. Et d'une certaine manière, si il paraît qu'on serait en retard, eh bien, sautons le pas. Et sautons ces 20 ans qu'on a un peu manqué sur la pédagogie universitaire. Et puis finalement, allons plus vite en considérant que nous avons affaire aujourd'hui au développement. Nous avons à accompagner le développement d'une institution qui est inscrite dans le terreau que je vous ai indiqué, mais dans un contexte qui est plutôt celui d'un mouvement civilisationnel. et pas d'une simple modernisation. Alors, dans les passages obligés, évolution des paradigmes d'analyse, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure, évolution des cultures d'action, pour reprendre un concept développé aujourd'hui par Jean-Marie Barbier, j'en ai donné quelques exemples, évolution dans la structuration de l'institution. Comment peut-on avancer ensemble sur le chemin qui nous est cher si dans nos établissements, nous avons le CRI d'un côté, le SUP de l'autre, le SUED de l'autre, etc. Donc il y a là à travailler à cette structuration institutionnelle pour aller vers des rapprochements réels. Et les rapprochements réels, ça instruit, mais ça fait mal. Parce qu'on n'a pas les mêmes langages, on n'a pas les mêmes visées, on n'a pas les mêmes cultures de travail. Mais il faut le faire, cet effort-là, sinon on ne va pas réussir à avancer. Alors, j'aurais tendance à dire que, à moins de procéder, pour conclure, à moins de procéder par exclusion de tous ceux qui ne correspondraient pas au canon de la performance, selon un modèle qui est celui d'une toute petite élite, et si l'on s'accorde à penser que la plupart de nos universités et de nos formations sont davantage du ressort d'une éducation de masse, mais pas seulement de masse, aussi démocratique et ouverte à la diversité des cultures, il y a alors à produire cet effort individuel, mais aussi collectif. Donc c'est déjà difficile individuellement, mais collectivement, on voit bien tous les jours combien c'est dur, hein. Mais il faut bien le faire pour à la fois préserver la dimension qui qualifie socialement l'université, c'est-à-dire sa capacité de produire de la connaissance et de la transmettre à des hauts niveaux de formation. Donc prendre appui sur cet héritage traditionnel, sur les apports du passé, mais aussi être capable d'inventer des réponses nouvelles pour faire face à ce monde contemporain qui est rapide, multidimensionnel, international, mondialisé, et qui, d'une certaine manière, nous happe, nous emporte. Alors, comment peut-on, dans ce mouvement, de temps en temps, s'arrêter et réfléchir ?